Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. On le sait, l'industrie du taxi est en crise. Les concurrents qui ne paient pas de taxes et qui n'ont pas les mêmes règles chauffent les chauffeurs de taxi dits traditionnels. Alors, on se demande aujourd'hui si l'industrie ne devrait pas davantage prendre la voie du transport adapté. Peut-être que ça pourrait sauver la mise, qui sait. Et pour mieux comprendre la situation, on reçoit en table ronde des acteurs importants de cette question, notamment des gens du milieu des personnes handicapées et aussi l'Association des chauffeurs de taxi accessibles du Québec. Vous êtes aussi important à la maison puisque vous pouvez contribuer à la conversation. On vous rappelle que vous pouvez répondre à la question du jour. L'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transport adapté? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté? Et vous pouvez répondre directement sur notre page, sur la page de l'émission, canalm.vusezvoix.com ou même par Facebook, etc. Il y a aussi des informations qui vous concernent. On a entre autres avec nous notre chroniqueur Accessibilité Web, Vincent François. Et dans un instant, on rencontre Éric Aubin de l'organisme Le Phare pour échanger sur la réinsertion au travail. Sur CanalM, la radio de Vusezvoix. Dans la vie, on se recycle souvent. Hein? C'est pas ce qu'on a décidé au départ n'est pas nécessairement ce qu'on va faire plus tard. Et parfois, il y a quelques obstacles au travers de notre route. Eh bien, dites-vous qu'il y a même des gens qui vivent de la réinsertion au travail, mais dans une entreprise dédiée au recyclage. Alors, c'est pour ça qu'on reçoit Éric Aubin, directeur ressources de réinsertion à l'organisme Le Phare à Port-Cartier. Donc, bonjour, Monsieur Aubin.
Bonjour, Monsieur Racette.
Très content que vous soyez avec nous.
C'est pareillement, moi aussi, je suis très content d'être avec vous.
Très content, donc. Nous le sommes tous les deux. Et je vous pose la question, tout simplement, vous êtes à Port-Cartier, non loin de cette île. Vous travaillez avec qui à l'organisme Le Phare?
On travaille, en fait, on a une belle équipe de travail de 70 personnes, d'employés et de personnes en cadre, si on veut, là, qui occupent nos trois sites, parce qu'on opère en fait trois sites différents. Là. Il y a un centre de transfert qui est directement à cette île, il y a un centre de tri à Port-Cartier et un éco-centre aussi à Port-Cartier.
Donc, vous êtes partout sur la chaîne du recyclage, là, de la collecte à la transformation?
Ben oui, si on peut dire, malgré que la transformation, c'est plus à l'éco-centre, donc on va faire une revalorisation de ces produits-là.
OK.
La transformation, elle se fait à l'extérieur, là, comme on sait, puis même que la majorité de la transformation se fait outre-mer, comme on pourrait dire.
Ah oui?
Oui.
OK. Donc, ces matériaux-là sont souvent même exportés loin en Europe ou dans le sud?
Oui, la Chine, mais là, d'ailleurs, c'est la problématique qu'on vit présentement un peu par rapport à ça, il y a une crise mondiale au niveau du recyclage parce que, justement, la Chine ont décidé de fermer leurs portes à l'exportation de ces matières-là. En tout cas, en fait, de matières plastiques et de papier mélangé.
OK.
Chose qu'on le produisait en grande quantité avant. Fait que là, ça fait qu'il faut revoir un petit peu notre plan de match, là, parce que ça génère une grosse crise, en fait, au niveau mondial. Là.
Parce que c'était effectivement votre partenaire commercial principal, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est plus de 90% du marché du recyclage qui est exporté en Asie, en fait.
Puis les autres marchés où tout ça est exporté, c'est quoi, à peu près?
Bien, le reste, c'était plus du local. Il n'y a pas vraiment d'exportation. Mais là, on comprendra que maintenant que beaucoup de places sont fermées, le local, maintenant, ils ont un gros volume dans lequel ils peuvent piger et puis aller chercher la meilleure qualité possible.
Oui, à moindre coût, j'imagine.
Et effectivement, là, je ne vous apprends rien avec ça. C'est sûr que c'est la loi de l'offre et la demande. Fait qu'ils ont le beau jeu présentement, oui.
OK, bon, on comprend le marché. On va s'attarder maintenant à ce que vous faites dans votre quotidien aussi, c'est-à-dire soutenir des personnes qui ont des grandes difficultés à intégrer le marché de l'emploi. Comment ça va? Qui vous a aidé exactement? Quel type d'employé vous recrutez?
OK, nous, c'est sûr que plus de 80% de nos employés, c'est des personnes ayant des limitations, ayant des difficultés à se trouver un emploi. Souvent, on engage ces gens-là par l'entremise du CEMO Côte-Nord, qui est un service externe de main-d'œuvre, ou par le biais de programme avec, Emploi Québec.
OK.
C'est les deux façons de rentrer ici au fort.
Okay.
On a des gens, là, autant en santé mentale, déficience intellectuelle, déficience physique. Ça varie là, dans ces trois domaines-là.
Puis c'est quoi les valeurs qui guident votre entreprise ou même le travail de réinsertion que vous faites?
Ben, c'est sûr que à la base, l'insertion, c'est important, mais je veux dire, on a des grosses valeurs de fraternité, d'entraide. On a des valeurs aussi au niveau de tout ce qui est de qualité de travail, hein, parce que ça demeure des gens qui, même s'ils ne sont pas compétitifs, c'est des gens qui sont quand même productifs.
Oui.
Puis le fait de se sentir valorisé, hein, parce qu'au lieu d'être au crochet de la société, bien, tu deviens un travailleur qui a ton revenu, puis qui paye des impôts au lieu de rien avoir de tout ça. Fait que ça nous apporte beaucoup au niveau de la valorisation d'eux autres-mêmes. Là,
fait que les gens se sentent fiers de travailler chez vous?
Ah, vraiment. Ça, c'est... Je pense que s'il y a une dominance d'ici, là, qui ressort, là, pour toutes les gens qui viennent faire les visites, en fait, là, c'est ce qui ressort au contact des gens. Ils disent, ben, ouais, le monde a bien du fun, le monde sont bien... Tu sais, moi, là, tout récemment, la semaine passée, on me demandait... Éric, toi, si tu avais à diriger une entreprise comme Arcelor, t'aimerais-tu ça? Et je lui réponds tout de suite non, parce que ici, j'ai l'avantage de diriger des gens qui travaillent ici pour les bonnes raisons.
Ouais.
Okay? Ils ne sont pas juste ici pour le salaire. Ils viennent chercher autre chose qu'un salaire. Mmh. Et en même temps, ils apportent une autre dimension à l'entreprise.
Mmh.
C'est ça, les beautés d'une entreprise adaptée, en fait. Hein? On retrouve une proximité avec les gens... une honnêteté,
ouais.
Tu sais, des choses qu'on... Sans vouloir blâmer tous les autres travailleurs dans les autres entreprises, là, je veux pas le lancer à la pierre, là, loin de là, mais chez les entreprises adaptées, il y a une proximité, puis ça se retrouve pas ailleurs, malheureusement.
Puis comment vous arrivez à maintenir cette atmosphère-là? Est-ce qu'il y a des formations particulières qui sont dispensées à vos chefs d'équipe? Est-ce que vous assurez là, une formation de votre monde?
C'est sûr qu'il y a des formations de nos personnes cadres, ont des formations de 2-3 formations différentes par année, comment gérer différents types de personnes. Ça, je pense que ressortent grandis à chaque fois. Moi, étant éducateur spécialisé de formation, je suis un petit peu plus proche, on va dire, peut-être de l'être humain et de leurs problématiques.
Mm-hmm.
Par contre, ça donne un défaut d'être un petit peu plus loin des chiffres et de la comptabilité.
Non, mais on vous en veut pas pour ça. Vous avez l'air parfaitement à la bonne place.
Peut-être que des fois, on peut me reprocher des choses, mais pas du côté humain, ça, c'est certain.
Oui.
Je pense que le fait d'avoir des gens proches puis qu'on se sent proche de nos gens, là, je pense que ça... Là, tout ça, ça menait de la formation interne. En fait, les gens n'ont pas peur de cogner à ma porte, de venir me dire, regarde, je vis telle chose, qu'est-ce que tu... Puis ils savent qu'on est très ouvert à les aider. On a une approche qui est très diversifiée là, au niveau humain. Tellement que c'est... Tu sais, des fois, il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais chez vous qui se fait pas ailleurs? Ça menait quasiment gênant, là, parce que des fois, t'as tendance à... Les gens ont tendance à vouloir dire... « Ah, bien, crime, si tu fais ça, là, tu dois te faire ambitionner sur toi, mais quand tu connais les employés qu'on a, là, c'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas des gens qui ambitionnent et qui veulent en faire plus.
Ouais.
C'est souvent le contraire. Ils veulent en faire plus pour l'entreprise. »
Éric Aubin, on comprend bien, la situation n'est pas facile avec la crise, mais la plus-value à l'entreprise, dans le fond, c'est vous qui apportez avec cette équipe-là une dynamique forte, particulière, c'est ça?
Oui, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe de travail. On est soudés. On a une belle gang.
Mm-hmm.
Effectivement, la crise, là, les conclusions de Recycle Québec, ça ressemble plus à investir dans la mécanisation pour être capable d'offrir une meilleure qualité.
Mais vous êtes là pour dire non, investissons dans l'humain pour répondre à la crise. Merci beaucoup, Éric Aubin. Vous êtes directeur ressources d'insertion à l'organisme Le Phare à Parc-Cartier. Merci beaucoup pour votre travail.
Ça fait plaisir, M. Recette. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Les vins. sur toi. Un, deux, trois, les voilà, ces images de toi qui font la ronde autour de moi. Comme les papillons, tout en fait, au fond de mon estomac, ils jouent de ma raison, de ma tête, qui n'est plus tout à moi. Qui n'est plus tout à moi.
Question, l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté?
Et c'est toujours un peu avec une synthèse vocale qu'on entend la question du jour. Et ça tombe bien, en plus, on parle avec un des spécialistes de toutes ces technologies, notamment les synthèses vocales, Robert Savard, qui est spécialiste en technologie adaptée à l'INCA. Bonjour Robert.
Bonjour, M. Rassette.
Content que vous soyez avec nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour analyser les situations que vous êtes là, mais c'est bien pour nous présenter les différentes formations qui sont offertes à INCA pour les personnes qui ont une basse vision, qui sont peut-être aveugles ou amblyopes. C'est bien ça?
Oui, effectivement. En réalité, c'est sûr qu'on a deux types de clientèle. Les clients qui ne voient pratiquement rien à l'écran, donc ils doivent utiliser une synthèse vocale ou utiliser le braille. À ce moment-là, ben, les gens vont utiliser des logiciels de revue d'écran tels que Jazz. Et l'autre type de clientèle, c'est les gens qui utilisent le grossissement, soit avec Zoom Text ou avec un logiciel de grossissement qui est intégré au nouveau Windows.
Donc, on capte l'information par l'oreille ou par un très grand grossissement.
Exactement.
Okay.
Alors, c'est sûr que c'est des formations qui sont différentes. Donc, c'est vraiment des groupes différents. Et nous avons, nous, à l'INCA, deux méthodes d'enseignement.
Okay.
Nous avons l'enseignement qui est offert par des conférences téléphoniques. Alors, de la manière que ça fonctionne, c'est que les gens se rencontrent, on se rencontre une fois par semaine en téléconférence. C'est des petits groupes, des groupes de 6 personnes au maximum. Okay. Et le formateur se branche sur les ordinateurs de chaque personne qui sont à la maison. Et là, ben, le formateur va donner son cours par téléconférence et il va pouvoir regarder sur l'écran les 6 ordinateurs et pouvoir aider les gens lorsqu'ils ont des difficultés à faire leur exercice ou qui ont de la difficulté à trouver, par exemple, un bouton ou des choses comme ça.
C'est hautement adapté. C'est vraiment excellent. Donc, ce n'est pas juste une conférence de groupe. Là, on est presque dans l'intervention individuelle là, pour mieux maîtriser les différents logiciels.
Oui, effectivement. Effectivement. C'est un peu comme si c'était donné en classe.
Oui.
Mais étant donné que nous, on veut rejoindre la clientèle qui est partout au Québec, à ce moment-là, ben, c'est la façon qu'on a trouvée pour rejoindre ces gens-là. Et on a développé aussi une autre méthode d'enseignement justement pour aider les gens à faire l'apprentissage des différents logiciels, mais lorsqu'ils ont le temps. Alors, on a développé des formations en ligne, sur vidéo. C'est des formations qui sont offertes sur notre site web.
INCA.ca.
C'est pas le site web de l'INCA.ca, c'est un autre site où les gens reçoivent des formations en ligne. C'est des formations sur vidéo. Dépendant là, des formations qui sont offertes, ben, on peut avoir entre 5 et 11 ou 12 vidéos. La manière que ça fonctionne, c'est que les gens qui s'inscrivent à ces formations-là. C'est toujours des formations de groupe, mais il y a seulement une réunion par semaine pour que les gens puissent poser leurs questions. Alors, je leur envoie une vidéo par semaine. Ils ont toute la semaine pour faire l'écoute de cette vidéo-là. Donc, ils peuvent l'écouter le soir, la fin de semaine, quand ils ont du temps. Et les gens, ben, ils gardent leurs questions. Et lorsque nous avons des rencontres téléphoniques à la fin de la semaine avec tous les participants, ben là, les gens peuvent poser leurs questions ou aussi le formateur peut donner un supplément de formation lors de ces rencontres-là. Suite à ces rencontres-là, ben là, on envoie une autre vidéo et là, les gens ont encore une semaine pour faire l'écoute de la vidéo et après ça, il y a une autre rencontre téléphonique jusqu'à la fin de la formation. Les formations, ben, ça peut varier entre 4 semaines à 8 semaines, dépendant là, des formations.
Robert Savard, vous êtes vraiment un formateur. Votre étape par étape est extrêmement lisible et compréhensible. Merci beaucoup. Donc, on comprend bien les deux formes de formation que vous offrez, les deux, disons, modalités de formation. Mm-hmm. Avant qu'on se quitte, c'est quoi les formations les plus populaires?
Bien, c'est sûr que les formations populaires, tout ce qui est réseaux sociaux comme Facebook, c'est très, très populaire.
Ah oui, hein?
La formation iPhone aussi. La formation Facebook, en passant, c'est on a commencé à offrir, c'est une nouvelle formation qu'on offre là depuis la session d'automne. Mm-hmm. Alors, j'invite les gens là, à s'inscrire. Là. C'est vraiment une formation qui est très populaire. Et aussi, bien entendu, la formation iPhone, là, qui est les gens de plus en plus s'achètent des iPhones.
Ouais.
Ils veulent apprendre comment utiliser l'iPhone mm-hmm. lorsqu'on n'est pas capable de voir l'écran.
Là, j'ai pas envie de faire une commandite, comment je pourrais dire, non planifiée, mais il reste quand même que souvent ces produits-là ont une bonne performance en accessibilité universelle, mais c'est pas les seuls, faut le dire. Alors, si on veut s'inscrire à vos formations, Robert Savard, il est possible, entre autres, de vous écrire à robert.savard@inca.ca. On peut vous rejoindre aussi par téléphone, hein, c'est bien ça, partout au Québec?
Oui, exactement. Vous pouvez me rejoindre au Québec au 1-800-465-4622, poste 230, ou dans la région de Montréal au 514-934-4622, poste 230.
Et il est même possible d'avoir plus d'informations sur l'action générale d'INCA en allant pianoter là, inca.ca. Merci beaucoup, Robert Savard. On vous envoie du monde, c'est certain.
Ben, très bien, ça me fait plaisir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Question, l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté?
Vous le savez, le gouvernement fédéral prépare une nouvelle loi sur l'accessibilité. Rappelons qu'un Canadien sur sept doit composer avec une déficience, ou même plusieurs parfois, et cette loi doit rendre davantage accessible, a priori, les services qui relèvent du fédéral, mais aussi l'information, les communications. Alors, qui de mieux que notre chroniqueur Accessibilité Web pour nous présenter l'avancement de ce vaste projet? Bonjour, Vincent François.
Bonjour.
Alors, cette loi, on l'attend depuis longtemps, il y a eu des consultations et tout. C'est quoi les grands obstacles à l'accessibilité qu'elle devrait inclure, d'après vous?
Bien, disons que suite à cette consultation, on a pu avoir les desiderata des gens qui vont être le plus concernés. Mm-hmm. Et c'est quand même assez agréable de savoir qu'il y a de l'espoir dans ce qui pourrait se faire. Bon, après, c'est un jeu politique, donc il y a toujours une angoisse sur ce côté-là. Mais...
Et il y a un changement de ministre responsable, il faut quand même le noter.
Oui.
Madame Caltrow venait des droits et libertés, Monsieur Kerr a un autre, disons, passé background. Hein? Ouais. Mais bon, on attend ça.
On a des raisons d'espérer, mais oui. on sait dans quoi on joue. Quoi.
C'est ça, voilà.
Mais donc, les principales constatations qu'on a vues, c'est de rappeler que l'accessibilité est un droit fondamental qui s'applique à tous les aspects de la vie quotidienne.
Mm-hmm.
On le connaît très bien ici. C'est de rappeler parce que pour une grande partie de la population ou des entrepreneurs ou des gens qui font les règles, etc., c'est encore pas une évidence. Et on rappelait aussi que ça permet l'accessibilité, la pleine citoyenneté. C'est pas simplement acheter des bébelles et participer à la consommation générale, mais c'est aussi pouvoir participer à partie entière au rôle de citoyen. L'idée aussi qui est sortie des constatations suite à la consultation, c'est s'assurer d'élaborer des normes d'accessibilité pour toutes les administrations canadiennes.
Mm-hmm.
Il y a une angoisse de voir que le millefeuille administratif soit pas au même niveau sur les règles d'accessibilité. Or, pour un citoyen, un utilisateur quelconque, on se moque bien de savoir à quel niveau on se trouve quand on affronte un problème d'accessibilité.
Ça, pour les gens, on s'en fout que ce soit telle ou telle agence qui s'en occupe. L'important,
absolument,
c'est qu'on y ait accès. Mmh. On comprend bien votre proposition.
Et puis, on demande aussi donc, que tous les champs de compétences du gouvernement fédéral soient couverts,
mmh,
et que le gouvernement lui-même fasse preuve de leadership. C'est un embaucheur, un acheteur de services, etc.
Ouais.
Donc, on s'attend à ce qu'il utilise des immeubles réellement accessibles, qu'il achète des produits réellement accessibles, mmh, qu'il mette des processus d'embauche qui laissent la possibilité de facilement entrer des personnes handicapées.
Mmh.
Et aussi, on demande de prévoir des sanctions pour le non-respect de ces règles. Parce qu'on le sait bien, hein, les règles, c'est bien, mais en
les
avoir
contourner,
peur,
c'est souvent
pas plus
facile.
Mal.
C'est
bah, oui, bah, y a toujours des bonnes excuses. Hein.
Ouais. Donc, il faut que ça soit contraignant. Ça, c'est une demande claire,
oui,
des groupes, des personnes, une loi contraignante.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, dans les domaines prioritaires qui ont été mis en avant dans cette consultation, c'est d'abord l'emploi.
Mmh.
La grande majorité des gens s'intéressent à s'assurer que les emplois, que les lieux de travail soient accessibles, que les processus de sélection au travail soient accessibles. Et aussi, ne sont pas oubliés les gens qui deviennent invalides dans le cadre de leur emploi.
Et voilà.
C'est déjà difficile de rentrer dans le marché de l'emploi avec certaines déficiences.
Mm-hmm.
Et quand c'est le marché de l'emploi, quand c'est l'emploi lui-même qui nous
expulse, disons, ouais,
et qui finalement nous expulse, donc il y a quand même beaucoup d'attentes là-dessus.
Mm-hmm.
La deuxième priorité, c'est l'accès physique aux immeubles, aux espaces publics, à tout ça pour...
Et peu importe notre déficience.
Ah bien sûr, mm-hmm, oui, et c'est l'idée de l'accessibilité, hein, c'est, mm-hmm, c'est qu'on veut tout couvrir.
Ouais.
Donc,
même
l'accès...
quand on a une basse vision ou c'est physique,
voilà,
c'est important. C'est
absolument.
Ouais.
Et puis les moyens de transport aussi, donc on comprend bien l'intérêt de ça. Et ils insistent dans la consultation sur le fait de rendre accessibles toutes les étapes du voyage. Hein. C'est le facteur limitant. On peut avoir une partie du voyage qui est accessible. Si la porte d'entrée ne l'est pas, eh ben, tout est bloqué.
Voilà. Évidemment, les prestations et les services des gens, mais ce qui est très important, surtout étant donné vos compétences, c'est aussi l'information et les communications.
Exactement. On est dans un monde de plus en plus d'informations, justement, et une grande partie de nos activités, que ce soit commerciales ou citoyennes, ou même de relationnelles, se passe à travers des appareils électroniques, à travers des écrans, à travers des réseaux qu'on dit sociaux.
Quotidiennement, mais presque à la minute même.
Ah oui, ouais, peut-être même parfois un peu trop.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un autre sujet. Et donc, on insiste dans les desiderata sur la loi de s'assurer qu'on applique des normes en matière de technologie d'information et de communication pour tous les contenus numériques.
Ouais.
On a déjà des standards internationaux comme les WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, donc les règles pour l'accessibilité des contenus web, qui sont reconnues partout dans le monde entier comme étant la base de tous les standards internationaux. Mm-hmm. Et on pousse à s'associer, se lier à des standards existants.
C'est ça, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas, là.
Alors, actuellement, on a des exigences au niveau fédéral pour les agences et ministères du gouvernement lui-même. Mmh. Donc ça, il y a eu des batailles importantes sur la question. Il y a eu des gros gains de fait au niveau fédéral au Canada. Mais maintenant, on voudrait étendre ça un peu au-delà. L'Ontario oblige les entreprises de plus de 50 employés à avoir ce genre de règles depuis le 1er janvier 2014. Mmh. Des règles plus légères au janvier 2014 et des règles plus classiques en janvier 2021.
Donc il y a quand même du temps pour s'ajuster. Mais oui, c'est la même chose, pas seulement pour les fournisseurs de services, disons, de produits dans les télécommunications, mais c'est aussi important pour le CRTC, hein, oui, puis les médias.
Mm-hmm. Donc, et une des demandes, justement, c'était de s'assurer que le CRTC se soucie de cet, mm-hmm, aspect. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des exigences par le CRTC pour les télévisions en 2012. En juillet 2012, on exigeait les sites web liés à la programmation des télévisions, donc, mm-hmm, être capable de consulter son programme en ligne. Je ne sais pas ce que ça a donné, d'ailleurs. Je n'ai pas suivi l'affaire.
Il faudrait faire le suivi là-dessus.
Ouais, ça serait intéressant.
On se met là-dessus.
Je vais regarder ça.
Et sinon, il y a quand même d'autres secteurs qui sont réglementés ou même qui, je dirais, audités par le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications. Peut-être deux, trois pour que les gens comprennent, à part la télé, ça gère aussi la radio, tout ça peut-être. Puis je pense qu'on peut même parler des télécoms éventuellement.
Ah oui, le CRTC, ouais, touche à ça aussi, effectivement. Ouais. Il ne touche pas que la télévision, mais il touche aussi aux télécoms.
Donc, en terminant, qu'est-ce qu'on fait? À quoi vous nous invitez, Vincent François, pour que tout ça se réalise dans le cadre d'une loi prochaine?
Je nous invite à faire pression sur le gouvernement, sur nos députés, à tous les gens qui sont concernés par cette question-là. Le jeu est entre la main des politiques. On est une année électorale actuellement au provincial, donc ça ne nous concerne pas nécessairement, mais l'an prochain est une année électorale fédérale. Mm-hmm. Écoute, ils ont des bonnes idées, ils ont peut-être une équipe qui voudrait faire quelque chose. S'ils peuvent faire une chose bien pendant leur mandat, autant que ça soit celle-ci.
La prescription est faite par Vincent François, qui est expert en accessibilité web pour Consultation Boréal. Merci beaucoup, Vincent François.
Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
L'espoir, c'est mieux que la Bible. Des soupers après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre, indulgent comme une mère de tueur. Oh Jenny, ma lueur. Pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leur plume. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai que du broyer du noir à tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher. Mais laisse-moi dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je vais tenter ma chance parmi un grand mariage d'oiseaux. Jenny, vois quelque chose de beau à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la seule de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit corseau. Tout ce que j'ai, c'est moi. J'essaye de faire en sorte que quand tu penses à moi, tu te dises que t'aurais pas pu trouver mieux. Cette Christie de vie, je l'ai de travers, c'est bien ça le mystère. Comment t'as fait pour me rendre heureux? Assois mon beau camion, viens te livrer un merci grand comme la mer. Oh Jenny, comme la mer. C'est comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre. Je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi.
Question : l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés ? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté ?
Vous l'entendez depuis la synthèse vocale, il s'agit de la question du jour. Et pour arriver à répondre à cette question, qui est lourde pour l'industrie du taxi, mais qui est importante aussi pour les personnes en situation de handicap qui ont de plus en plus besoin de transport adapté ou de transport accessible, il faut avec eux trouver les bonnes solutions. On est en présence de Nathalie Savard, qui est directrice du regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière, le Rutal. Rappelons qu'il est basé à Joliette, mais qui représente 6 MRC, c'est quand même beaucoup de territoires.
C'est régional, oui.
C'est très régional. Donc, il y a beaucoup de régions en cause, j'oserais dire. Il y a Olivier Colomb-Desrames qui est avec nous, directeur général du regroupement des organismes des personnes handicapées de la région 03, c'est-à-dire la vieille capitale. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour.
Très content que vous soyez avec nous. Et pour compléter la discussion, deux représentants de l'Association des chauffeurs de taxi accessibles du Québec, M. Boilem Djebar, bonjour.
Bonjour.
Rappelons que vous êtes président de l'association, et M. Abdelaziz Lamène, qui est vice-président de l'ACTACT.
Bonjour.
Donc, le même organisme, vous êtes en renfort à deux, on est beaucoup à table, on apprécie. Donc, merci. Bienvenue. Alors, d'abord, si vous permettez, on va partir des besoins des personnes. Hein? Évidemment, on parlait de sauver l'industrie du taxi, mais à l'émission, on a tendance à d'abord s'intéresser à ce dont les personnes en situation de handicap ont besoin. Et c'est pour ça que je me retourne vers Nathalie Savard. Vous travaillez pour faire valoir les besoins de ces usagers en transport adapté. C'est bien ça le rôle du Rutal?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Dans le fond, oui, on représente l'organisme qui a un mandat régional,
oui.
Donc qui représente les quelques 7000 personnes handicapées admises en vertu d'une politique gouvernementale au service de transport adapté.
Mm-hmm.
Dans notre région, ce qui est particulier, c'est qu'il y a 6 MRC,
ouais.
Et chaque MRC a son propre service de transport adapté.
Donc, ça fait beaucoup de variables à conjuguer en même temps. Rappelons aux gens que les MRC, c'est les municipalités régionales.
De comté, yes.
C'est ça, de comté. Et donc, comment vous faites d'ailleurs pour composer avec ça? Comment les usagers font pour composer avec des grandes différences entre Sainte-Adèle puis...
En réalité, Sainte-Adèle, c'est plus les Laurentides.
Ah, j'ai dit Sainte-Adèle.
Non, mais c'est pas grave. On n'est pas loin parce qu'on va jusqu'à Saint-Donat. Donc, on part Charlemagne, Terrebonne, Mascouche, on monte Repentigny, Joliette. Donc
de Charlemagne à Mascouche qui a quand même une bonne desserte. Charlemagne, c'était différent.
Disons qu'elles sont comprises dans la MRC de l'Assomption et la MRC Les Moulins. Ce sont nos deux MRC du Sud qui ont une réalité différente,
mm-hmm.
parce que notamment les personnes peuvent aller vers Montréal.
Ah oui.
Avec l'arrivée du réseau de transport métropolitain, ça amène une autre dynamique au niveau des réalités et peut-être des inquiétudes au niveau des services. Mais disons que la plus grande problématique dans notre secteur, c'est que les personnes handicapées à l'heure actuelle n'ont pas accès à certains soins de santé,
mm-hmm.
Notamment aussi en réadaptation pour l'aide à la mobilité quand ils veulent faire une réparation, parce que les déplacements en inter-MRC, donc d'une MRC à l'autre, ne sont pas possibles ou très difficiles.
Mm-hmm.
Ce qui fait que la fluidité de l'est vers l'est, vers l'ouest, pardon, du nord vers le sud, c'est très complexe. Évidemment, on sait que c'est un service essentiel, le transport adapté.
Ouais.
Tout à l'heure, on va parler des taxis accessibles. Bien évidemment, ce sont des effectifs très importants pour effectuer ces déplacements.
Ça compose quel pourcentage à peu près des transports adaptés pourvus par l'industrie du taxi?
Bien, dans le fond, dans notre région, à l'heure actuelle, selon les services, il y en a des fois qui n'ont pas du tout.
Ah oui?
Donc, et il y en a certains qui peuvent aller jusqu'à 6 taxis accessibles. C'est très apprécié par les usagers parce que notamment, la ponctualité peut être là. Notamment taxi privé, pour les demandes et pour les services de transport adapté, dans le fond, il y a moins de personnes aussi à bord des véhicules. Donc, c'est un besoin. Je dirais que chaque service de transport adapté vous dirait aujourd'hui on aurait besoin de plus de taxis accessibles.
Donc ça, c'est le mot d'ordre, plus de taxis accessibles. Puis vous le rappelez, là, il y a des gens qui ont besoin d'aller avec leur aide à la mobilité, des foyers gros. Hein? Donc, un simple taxi, c'est pas suffisant. Ça va peut-être une minivan adaptée.
Mais Géraud, au-delà, si on veut parler de transport adapté comme tel, du service qui est essentiel, au-delà des véhicules utilisés, le besoin est grandissant. Il y a plus de demandes en admission, en transport adapté, vieillissement de la population, on va certainement le mentionner. Nous, dans notre région, on augmente, on est rendu en 2016, il y avait au-delà de 300 690 déplacements. Donc, on est rendu près, certainement en 2017, là, de 350 000 déplacements juste dans notre région.
Puis ça explose, là. C'est quoi la croissance par année? Là? C'est plusieurs centaines, milliers?
Le pourcentage, je dirais, de la hausse des admissions de l'achalandage va facilement à des fois 12-15 dépendant des MRC.
Et tout ça est souvent pas compensé, hein? Pas d'argent neuf.
Et voilà, bon, et là, on touche un point du programme de subvention au transport adapté qu'on pourra parler.
On pourra en parler, en effet. On a avec nous Olivier, j'allais dire tout simplement Olivier, parce qu'il est si connu, Olivier Colomb-Desrames, qui est directeur général d'Europe 03. Je vous pose la question, Olivier, est-ce que la modernisation de l'industrie du taxi est peut-être aussi... la croissance des besoins des personnes usagères du transport adapté pourrait faire qu'on devrait investir plus là-dedans?
Bien, moi, pour compléter ce qui vient d'être dit, nous, on couvre la vieille capitale, mais aussi Portneuf et Charlevoix. La réalité, effectivement, pour tous les gens qui ne sont pas dans le territoire de la vieille capitale, de la grande ville de Québec et des deux villes défusionnées, effectivement, il y a beaucoup de besoins, notamment liés à toute la transformation dans le réseau de la santé, au fait qu'on ouvre des résidences pour aînés semi-autonomes sur des territoires où il n'y a pas d'offre de santé qu'on doit rabattre vers Québec.
Ça ne fait pas partie des critères dans le développement ou dans l'offre de services, là. Puis pourtant, c'est essentiel le transport, hein, c'est ça?
Ben, c'est essentiel et puis là, tu te retrouves que dans le fond, la stratégie du réseau de la santé en cherchant à s'optimiser, pelte dans la cour des municipalités et dans une moindre mesure dans celle du ministère des Transports, des frais. Donc, il y a vraiment un enjeu là que nous, on a essayé d'adresser dans notre région. On a monté un projet pilote soutenu par le ministère des Transports pour financer les transports inter-territoires.
Oui. Ce dont parlait aussi notre ami Durutal, parce que les transports, ils ont le même projet. Donc voilà. Okay.
Oui, ben nous, on a réussi à le faire financer. Je vous dirais, en tout cas, nous, on est quasiment sur 30 000 déplacements financés annuellement. Lévis, Québec, et puis les MRC Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans et MRC de la Jacques-Cartier. Mm-hmm. Ça fonctionne. Et effectivement, comme garantie pour développer une industrie du taxi adaptée, avec des véhicules adaptés, parce qu'il y a d'autres choses à améliorer dans l'industrie du taxi, mais il y a besoin du financement de transport adapté, parce que ça permet de rendre, disons, rentable sur ces territoires-là, le fait d'avoir un taxi adapté. Donc nous, dans notre région, je pense, si on parle d'industrie du taxi de manière générale, c'est plus de 80% pour la ville de Québec des transports adaptés qui sont faits par l'industrie du taxi.
Ah, c'est énorme. Montréal, c'est 90, Québec, c'est 80. Évidemment, il y a des régions où c'est moins important, mais comme le soulignait Mme Savard Durutal, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout, en fait, des taxis adaptés ou des taxis accessibles.
Et ça, là, il y a eu aussi un choix du ministère des Transports de couper le montant de la subvention, maintenant qui est à 15 000, avant qui était à 20 000, de diminuer, et ce qui fait que l'enveloppe qui sert à financer l'adaptation des véhicules taxi permet pas d'avoir la mise à jour. C'est un véhicule taxi adapté, il dure 4 ans. 4 ans, 5 ans. De toute façon, là, vous avez des interlocuteurs mieux placés que moi pour vous expliquer ce que ça coûte, un taxi adapté. Mm-hmm. Mais déjà, là, le choix qui avait été fait a fait en sorte que ça incite pas l'industrie du taxi à aller vers l'adaptation des véhicules taxi. Donc, je te dirais, nous, dans notre région, au moins, l'enjeu de l'interterritoire, en partie, est réglé, ce qui permet quand même, parce que dans l'industrie du taxi, quand on parle de modernisation, pour les personnes handicapées, la question des véhicules accessibles est une question à part entière, mais il y a toute la question aussi de tout ce qui s'en vient avec des firmes comme Théo Taxi, on peut même plus les appeler par téléphone.
Ouais.
Et où là, on se retrouve que les gens sont... Si ça se poursuit dans ce sens-là...
Mais vous pouvez dire Uber aussi. Hein? Théo Taxi, c'est une chose, mais Uber, c'en est une autre.
Uber, oui. Pour l'instant, à Québec, je pense qu'ils doivent être 32, donc ça, on n'a pas ce problème-là. Puis là, tu as Uber, puis tu as Lyft, puis tu as toute une série d'autres qui vont venir. Il y en a en Europe, il y en a de partout, puis ça ne coûte rien.
En fin d'émission, d'ailleurs, on va parler d'un recours en cours, si je peux dire, contre Uber et Théo Taxi sur la difficulté d'accessibilité. C'est une autre question, mais juste pour résumer, pour que les gens comprennent bien, l'enjeu, il y en a plusieurs. Il y a l'interterritoire, les gens ne peuvent pas aller d'un endroit à l'autre, pour aller même parfois dans les établissements de santé. Ça, c'est grave et compliqué. Et l'autre problème, en plus du sous-financement du transport, on va le dire, c'est que les incitatifs ont baissé. Donc, les chauffeurs de taxi ont moins d'argent pour rendre adapté. Et c'est déjà normé, c'est déjà difficile pour ces chauffeurs-là d'être adaptés. Donc, vous posez qu'il faudrait qu'il y ait un réinvestissement là-dedans. C'est ça?
Oui.
Allons-y. Donc, on passe en... C'est significatif, important, ça doit être significatif. Donc, après cet instant musical, on va parler de fait avec ses représentants de l'Association des chauffeurs de taxis accessibles du Québec.
Question, l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté?
On poursuit en table ronde après cette question du jour à laquelle on vous invite à répondre, notamment sur canalm.vuesetvoix.com. Il y a une page de discussion. Évidemment, vous repérez aussi Canalm, la radio de Vues et Voix, sur Facebook. Alimentez-nous, s'il vous plaît. C'est votre transport adapté, c'est votre transport accessible. Et au-delà de ça, il y a évidemment ces valeureux qui viennent tout juste de rencontrer le chef de cabinet du ministre des Transports de l'Association des chauffeurs de taxi accessibles du Québec. Donc, d'abord avec nous, M. Boualem Djebbar, qui est président.
Bonjour.
Rebonjour, donc, et le vice-président Abdelaziz Lamène.
Bonjour.
Alors, vous venez de rencontrer, si je comprends bien, sur la question, entre autres, des permis restreints, du transport adapté ou de l'adaptation des transports. Vous venez de rencontrer le chef de cabinet du ministre. Comment ça s'est passé?
On l'a rencontré ce matin. Ça fait à peine une heure et demie qu'on a terminé la rencontre avec lui.
Donc, c'est vraiment chaud.
Vincent Robida, c'était chaud, c'était intéressant aussi. On lui a transmis des informations pertinentes, surtout après lui avoir envoyé un dossier complet avec une pétition concernant le maintien des permis restreints, parce qu'il y a eu une tripartite formée de Taxelco, de M. Taillefer, formée d'une petite partie du CPCIDT, c'est la commission... C'est le comité provincial de développement et de concertation de l'industrie du taxi.
Et, des acteurs quand même forts et majeurs. Là.
Oui, exactement. Mmh. Plus le RPTM, c'est le rassemblement des propriétaires de taxis de Montréal. Okay. CPCIDT, il y a une dizaine d'intermédiaires de services qui ont démenti être de la partie. Donc, ils ont désapprouvé ce que M. Taillefer a recommandé dans le plan de modernisation du taxi, okay. où il a demandé l'élimination des permis restreints, qui sont essentiels parce qu'on offre un service essentiel à cette frange de population.
Absolument. Pour que les gens comprennent, qu'est-ce que c'est un permis restreint?
C'est un permis, écoutez, pour avoir une idée claire là-dessus, la STM a sollicité l'industrie du taxi pour acheter des minivans adaptés pour faire du transport adapté. Donc, l'industrie a refusé, en grosso modo. Bon, il y en a quelques-uns qui ont répondu à l'appel, mais c'est un pourcentage très minime. Okay. Et pour donner un meilleur service à la population handicapée et à mobilité réduite, la commission de transport a commencé à émettre des permis restreints dans le service. Ça veut dire qu'on doit offrir uniquement le service aux personnes handicapées et à mobilité réduite et non pas à la clientèle régulière.
OK, donc en fait, il n'est pas possible pour les détenteurs de ce permis-là de faire à la fois du transport régulier et du transport adapté?
Non, on ne fait pas les deux activités, c'est uniquement la population handicapée.
OK, mais ces gens-là sont quand même formés. Ah oui, ben, Olivier, vous voulez réagir?
Oui, c'est un permis restreint, c'est que tu ne peux transporter que des personnes handicapées, mais au privé ou pour un transporteur. Donc c'est-à-dire, mais c'est dédié uniquement pour ces personnes-là. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a pas de handicap. Mais ce n'est pas très clair, parce que comment tu fais pour... quand le taxi roule en ville, il prend bien qui il veut. Mais en théorie, c'est ça, c'est pour combler juste pour ces personnes-là. Par contre, le véhicule étant accessible, il peut accueillir des gens en fauteuil roulant, mais tu peux embarquer des personnes aveugles dans le véhicule. Ouais. C'est ça.
Mais ça n'oblige pas un peu les personnes à vraiment se déclarer. Là. Il faut qu'ils soient inscrits quelque part. Si quelqu'un a juste de la misère à marcher, il ne peut pas accéder ou enfin...
Ben, en théorie, c'est le chauffeur qui doit juger.
OK. Donc, c'est le chauffeur qui juge. Nathalie Savard, vous aviez envie de réagir?
Oui, mais dans le fond, c'est que les permis restreints permettent justement les chauffeurs de taxi qui ont des permis restreints ont souvent des contrats avec les services de transport adaptés. D'où l'importance de conserver ces permis qui permettent...
Et donc, on essaie de comprendre, il y a une charge par Taillefer et d'autres contre ces types de permis-là. Vous réclamez au ministre, puis d'ailleurs, je pense que les groupes de défense de droit là, qui sont à table ou autour semblent être avec vous, là, vous réclamez qu'on maintienne, qu'on n'empêche pas les permis restreints.
Absolument. Ça nous a, à la STM, ça lui a pris une quinzaine d'années pour arriver à des résultats excellents.
Ah oui?
Oui, ils ont fait deux sondages d'ailleurs auprès de la clientèle de la STM et le taux de satisfaction a atteint les 96%. Donc, c'est énorme. ce que réclame la tripartite, ça veut dire que c'est carrément remettre en cause ce qui a été fait pendant toutes ces années-là et retourner à la case départ. C'est ce qu'on refuse parce que nous, on trouve que c'est un service essentiel. Mm-hmm. Ces personnes ont besoin, ils ont droit à l'accessibilité universelle. De sortir, d'être transporté comme tout le monde. Ils vont au travail, ils vont...
Absolument. Mais est-ce que, je suis désolé, est-ce que cette coalition-là, avec M. Taillefer, propose quelque chose en échange des permis restreints? Est-ce qu'eux, ils s'engagent à quelque chose dans le sens de l'accessibilité universelle?
Monsieur Taillefer, écoutez, que ce soit Monsieur Taillefer qui vient d'embarquer dans l'industrie du taxi,
il est nouveau
dans
l'industrie du
taxi, il connaît mal l'industrie du taxi. Oui. Sans problème, je pense qu'il est avec Uber parce que Uber a pris une bonne part du marché au lieu de s'attaquer à ce service qui est essentiel.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il veut? Il veut remplacer ses permis par des permis réguliers qui existent sur le marché.
Okay.
Donc,
mais des permis réguliers sans obligation d'une certaine accessibilité.
Non, mais les permis réguliers ont été sollicités en premier. Ça fait plus d'une quinzaine d'années. Ils ont refusé. Oui. Et en plus de ça, pourquoi? Comment se fait-il? Parce qu'actuellement, on a ici à Montréal à peu près 260 permis restreints qui font ce travail-là. En plus... Pour les détenteurs de permis réguliers, il y a à peu près une soixantaine de minivans adaptés. Comment se fait-il que depuis 15 ans, avec 4500 permis réguliers, on arrive à adapter qu'une soixantaine de véhicules? Donc, c'est des gens qui sont intéressés par ce service.
Mm-hmm.
Et nous l'offrons. Hein. Et en plus de ça, nous ne faisons que ça. Donc, une seule activité, c'est transporter cette clientèle à mobilité réduite et handicapée. Par contre, eux, ils font deux activités. Quand ils font le transport adapté, ils prennent aussi
la clientèle régulière. C'est ça, l'équité, dans le fond, continuer à transporter et des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas. OK, donc j'entends bien votre revendication. Je rappelle aussi que, j'ai oublié la statistique, je ne l'ai pas proche, mais ça coûte cher aussi adapter un taxi. J'entends Olivier qui veut réagir. Vous êtes d'accord avec ça?
Ben oui, puis quand même, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le permis restreint est gratuit.
Ah, voilà.
Parce que c'est ça la clé.
Ah oui.
Le permis restreint est gratuit.
Alors que le permis régulier a de l'argent, c'est ça? Ça coûte de l'argent pour s'en prémunir.
Il faut l'acheter, voilà, puis ça dépend du territoire. Ça peut être, des fois, je pense, dans les 40-50 000 sur certains territoires. Ça peut, en tout cas, nous, à Québec, avant qu'Uber brouille les cartes, ça pouvait aller à 200 000, voire plus sur certains territoires.
Ouais.
Par contre, moi, ça a été mon premier dossier, ça a été de défendre quelqu'un qui voulait un permis restreint contre une industrie du taxi qui voulait pas lui donner.
Ouais.
Les permis restreints, ça ne se donne pas comme ça sur le coin d'une table.
Ben non, il faut qu'il y ait une formation, il faut que les gens soient aptes pour
faire du transport. Ah non, mais même, je veux dire, c'est que la commission des transports, où je pense à Montréal, le bureau du transport,
taxi,
c'est lui qui décide d'émettre ou pas ces permis-là. Donc, s'il n'y a pas de besoin, si la personne n'est pas en mesure de prouver qu'il y a un besoin de taxi pour les personnes handicapées, la commission ne lui donnera pas son permis.
Mmh.
Donc là, le jeu d'aller déshabiller tout le transport adapté, en tout cas, je pense qu'il y a des acteurs dans l'industrie du taxi qui se disent que ça va être une manière d'aller mettre la pression et d'aller négocier plus d'argent pour ceux qui n'ont pas de permis restreint.
Il faut
savoir, le permis restreint est non transférable aussi. Il a une durée de vie de 5 ans.
Mmh.
La personne, si jamais le besoin n'est pas de nouveau reprouvé, elle perd son permis restreint. Donc, l'investissement qu'elle a fait, il est perdu.
Ah oui.
Donc, c'est un permis très spécial.
Ah, voilà. Donc, on perd des flottes. On entend très bien, je pense que tout le monde à table est d'accord avec ça, il y a une augmentation de l'achalandage. Mais là, la situation actuelle fait qu'on perd des taxis
d'ailleurs,
adaptés.
D'ailleurs, Joliette est présentement en appel d'offres, les compagnies de taxis, pour avoir... 4 permis restreints, parce qu'ils ont 0 présentement taxi. Donc, il y a des pertes, des fois, qui arrivent comme ça au moment de certaines années, et on manque de taxis. C'est ça.
Rappelons qu'on entendait Nathalie Savard, là, qui est au Rutal, basée à Joliette. Hein?
La région de la Naudière.
La région de la
Naudière.
Voilà. OK, bon. Je suis désolé, je crie mon manque de savoir de la géographie. Il y avait aussi avec nous Boualem Djebbar, Abdelaziz Lamène, qui est vice-président. Vous vouliez intervenir?
Oui, justement, sur cet aspect-là qui fait que, Comment expliquer et justifier la réticence de l'industrie du taxi donc disons, à s'impliquer beaucoup plus dans le transport adapté? Mm-hmm. Bon, mis à part donc la parade qui a été trouvée pour les permis restreints, qui ont permis donc de faire face à une situation d'urgence et qui ont permis durant pratiquement plus de 15 années maintenant donc de permettre au transport adapté de connaître un essor fulgurant, mm-hmm. et d'arriver aujourd'hui à permettre à la STM de faire à peu près de 4 millions de déplacements par année.
Ah là
donc
là.
C'est quand même impressionnant.
C'est impressionnant.
Et avec une qualité de service qui avoisine les 96%. Hein.
Ben ça, il y a souvent des critiques, mais il ne faut quand même pas reculer.
Ça hein? C'est pas rien.
Il faut continuer d'avancer. Mais on n'aura malheureusement plus le temps. Okay. On avait avec nous Nathalie Savard, qui est directrice du regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière, l'Orital.
Oui,
merci beaucoup. Olivier Collant-Desrames, directeur général du regroupement, en fait, du ROP 03, on l'appelle
voilà,
comme ça.
On l'appelle comme okay. ça.
Merci beaucoup à vous de l'Association des chauffeurs de taxi accessibles du Québec, donc M. Boualem Djebar, oui. M. Abdelaziz Lamen.
Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir. Rappelons qu'on va le déposer sur notre page. Il y a une pétition qui est possible de signer sur change.org, une requête en opposition à une demande de suspension des permis restreints dont on a besoin. Tellement de gens ont besoin du transport adapté.
Oui.
Vous écoutez Accès libre.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidables. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
On va entendre maintenant un livre produit par Vues et Voix, « Les yeux tristes de mon camion » de Serge Bouchard.
Tu donneras vie aux barreaux de ta prison, tu t'évaderas par la fenêtre ouverte de ton imaginaire. Rien ne peut t'empêcher de te recueillir devant une pierre humide, devant une clôture de broche. Rien ne t'interdit de résister jusqu'au dernier coup d'œil. L'humain, au temps où il avait les yeux ouverts, a toujours vu les mille facettes d'une chose, les mille sens d'un mot, les mille visages des bêtes, les mille couleurs d'une plante, ainsi que les liens mystérieux qui unissent le fer à l'étoile, le brouillard à l'arbrisseau, la montagne à la mort au corbeau et le mélèze à l'enfantement. Connaissez-vous Massasoit, le vieux sage de la nation Wampanoag? Jean-Baptiste Faribault et Michel Laframboise, ces aventuriers canadiens-français qui ont bâti l'Ouest américain, où l'oncle Yvan, revenu de la guerre alors que plus personne ne l'attendait, ou la tante Monique de Santa Monica? Saviez-vous qu'une vieille Honda était douée de paroles, qu'une grande tortue sacrée vivait dans la rue Pie-Neuf, qu'un camion des années 1950 avait des yeux et que ses yeux pouvaient parfois être tristes? Voilà quelques-unes des merveilles que l'on découvre ici. Après « C'était au temps des mammouths laineux » 2012, voici de nouveau une trentaine de petits essais écrits avec cet art qui est la marque unique de Serge Bouchard. Le timbre même de sa voix, un art qui est à la fois celui de l'anthropologue, nourri par une attention passionnée au visage et au récit inépuisable des humains, et celui du poète, confiant dans les pouvoirs révélateurs de l'imagination et du langage. Né en 1947, Serge Bouchard a fait des études d'anthropologie qui l'ont conduit, notamment, chez les Innus de la Côte-Nord et dans le milieu des camionneurs au long cours. Depuis 1991, il a publié une vingtaine d'ouvrages dans lesquels se marient souvenirs et découvertes, connaissances et littérature, sagesse et émerveillement. Écrivain inclassable, il est considéré par plusieurs comme l'un de nos prosateurs les plus originaux. Il a reçu, en 2015, le prix Gérard Morisset du gouvernement du Québec et est devenu, l'année suivante, officier de l'Ordre national du Québec.
Vous entendiez le quatrième de couverture de ce livre, « Les yeux tristes de mon camion » de Serge Bouchard. On vous propose maintenant un extrait audio du prologue.
Prologue. Les yeux tristes de mon camion. Je m'apprête à me départir d'un trésor. Lorsque j'étais jeune, petit garçon à Montréal, j'admirais les camions de la compagnie Miron. Juste ce nom, Miron, donne la couleur d'une époque. Les années 50, les années 60, la construction du métro, la construction des autoroutes, l'âge de la pierre et du béton. Il y avait des carrières dans l'est de Montréal, des trous immenses et profonds dans des couches et des couches de calcaire, de la poussière et du gravier. C'était vraiment impressionnant. On aurait dit qu'un grand ouvrage était en chantier, quelque part dans l'ouest de la ville, chez les riches, et que nous, dans l'est, nous étions dans l'arrière-scène d'une construction monumentale. Des camions Miron, il y en avait des centaines et des centaines dans les rues. Comment ne pas les remarquer, les aimer? Ils étaient rouges et jaune-orange. La compagnie les stationnait bien à la vue. Les fins de semaine, tous ces beaux véhicules propres, reluisants, alignés en rangée parfaite, comme si on exposait une flotte orgueilleuse. De gros camions six quarts tractaient les innombrables bétonneuses, tandis que les camions à benne étaient des Mack, le modèle B des années glorieuses où la machine ressemblait à une machine. Je parle ici d'un regard d'enfant, de naïveté, d'émerveillement. En plus des camions Miron, je m'intéressais aussi à ceux qui passaient devant chez moi, halant leur remorque sur le chemin du roi. Ils s'en allaient aux Trois-Rivières, vers Shawinigan, à Québec et plus loin encore, peut-être. En grandissant un peu, j'ai pu découvrir de nouvelles compagnies de transport dans d'autres quartiers de la ville. Je pense au MAC et aux autocars de la compagnie Maislin Transport, une magnifique flotte bleu marine qui faisait le trajet Montréal-New York. L'adolescence venue, j'ai eu la chance de découvrir les MAC jaunes de la compagnie Brazo qui desservaient l'Abitibi. Ils apparaissaient sur la route 11, la face empoussiérée ou enneigée, selon les saisons, avec des nez et des paupières, un regard discret et résolu, animaux fous de la route sauvage. Que de rêves, que de voyages dans ma tête, que d'émerveillement devant ces visages, ces machines, ces mondes. L'un traversait les Adirondacks, l'autre bravait les solitudes effrayantes du parc de la Vérendrye. L'autre encore défiait les côtes, les tours et les détours ainsi que les longueurs de la 138 vers cette île, autant dire le bout du monde.
En fait, j'essaie de le reproduire comme il faut. Mais donc, c'est dans les pots qu'on fait les meilleures causes. C'est un peu l'intitulé de cette rencontre avec Tommy Lamontagne, qui est cofondateur de Recettes en pot. Alors, pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'était le pot que vous entendiez. Donc, bonjour Toby.
Salut, merci pour l'invitation.
Ben, c'est un grand plaisir. Recette en pot, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée par toi et trois autres personnes.
Oui, absolument, on est quatre.
Et qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le secret?
Bien, à la base, nous, on est une entreprise qui est spécialisée en sociofinancement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des produits et des services qui servent aux organisations qui veulent faire des campagnes de financement.
Bien sûr.
Donc, on connaît ça, on en a vu dans notre jeunesse. Encore aujourd'hui, on se fait probablement harceler aux deux semaines par des gens qui vendent des barres de chocolat.
Le chocolat, c'est ça. Donc, on dépasse le chocolat et on accueille le pot de recette.
Absolument, oui. C'est la nouvelle tendance de l'heure à ce niveau-là pour les campagnes de financement. Et on le fait d'une façon très particulière parce qu'on a décidé, tant qu'à faire une entreprise qui est spécialisée en sociofinancement, on s'est attardé à savoir comment on peut générer un maximum de retombées possibles dans la communauté à travers l'ensemble des opérations de l'entreprise.
Et c'est même, quand vous dites opération, c'est même la production. Là. En fait, vous êtes une entreprise adaptée, au fond.
Oui, en fait, nous, on travaille avec des entreprises adaptées.
Ah, bien.
On ne prétend pas être capable de faire ce qu'ils font parce que ça demande toute une expertise, hein, d'être capable d'accueillir les travailleurs avec des limitations, les encadrer et les amener à faire un travail productif concret. Donc, nous, on a été séduits, en fait, par les entreprises adaptées du Québec. On a été impressionnés de voir ce qu'ils sont capables de faire, la qualité, parce que nous, c'est un travail très minutieux. Les recettes en pot, pour ceux qui vont aller voir sur Internet à recettesenpot.com, vont voir que ce sont des cadeaux gastronomiques. Ce sont des produits qui sont visuellement très attrayants et en plus, c'est des bons produits qui sont agréables à faire. Donc, on avait besoin de
gens. Il y a des brownies dans vos recettes?
Des biscuits, crêpes, muffins. On a une douzaine de recettes. En plus des paniers cadeaux.
Ouais.
Et nous, quand on a vu que les personnes dans les entreprises adaptées avaient la minutie nécessaire et le talent nécessaire pour réaliser les recettes, ça a été une révélation pour nous. Là.
Puis ça donne le goût de s'investir quand c'est pour une bonne cause en plus. Donc, on est content que vous soyez en collaboration avec les entreprises adaptées. Mais les causes que vous servez, ça ressemble à quoi?
Une multitude de causes. Alors, ça commence évidemment avec les écoles, beaucoup les écoles qui travaillent avec nous parce qu'ils ont des besoins financiers croissant et malheureusement, les budgets diminuent. Et de plus en plus, maintenant, les élèves, les enseignants veulent faire des activités parascolaires intéressantes. Alors, on aide beaucoup les groupes à financer des voyages de fin d'année, des choses comme ça. Les clubs sportifs. Les clubs sportifs sont très actifs aussi pour financer leurs compétitions et des choses qui ne cadrent pas nécessairement là, dans la modalité que les gens payent au début de la session.
Est-ce que des recettes en pot qui sont santé pour rimer avec les cours d'éducation physique?
Oui, surtout premièrement, on fait très attention. Même nos biscuits ne sont pas très sucrés. On compare avec le marché. Là. Donc, ce sont des produits qui, à la base, sont tous avec une tendance santé. Aucun produit de conservation. Très peu de sucre. Et quand on tombe dans les soupes repas, ça, c'est magnifique. Là. La soupe minestrone, lentilles, caries, encore une fois, bon, c'est...
Vous savez qu'on est encore près de l'heure du dîner, hein?
Oui, ça me donne faim juste d'en parler.
Mais on peut voir tout ça sur recette, évidemment... C'est pas la recette, là, c'est recette au pluriel empo.com. Vous êtes du côté des entreprises adaptées, vous aidez des causes, mais comment cette aventure-là a commencé, Toby? Est-ce que vous n'étiez pas seul, si je comprends
bien?
Non,
c'est ça. En fait, on est au départ des amis et on discutait comme ça des...
Autour d'un pot.
Oui, c'est ça. Ben, autour d'un pot, effectivement.
Hey,
mais c'est intéressant parce que dans les fondateurs, il y a Philippe qui est un enseignant. Donc lui, depuis 20 ans, il enseigne et il enseignait aux jeunes décrocheurs. Donc, ils voyaient beaucoup les besoins sur le terrain au niveau du financement, les carences. Moi, j'ai un background en politique. J'ai été conseiller politique et aussi, j'ai pu témoigner des besoins concrets sur le terrain. C'est toujours en rapport au financement. Et nous, on ne voulait pas seulement trouver un moyen de financement, mais trouver un moyen d'autonomie financière pour les organisations. Alors là, nous, avec les recettes en pot et tous les services qu'on offre avec, parce qu'on offre un encadrement, plan de campagne, une expertise en communication.
Ah oui. Donc, ça ressemble beaucoup à quelques solutions qui sont proposées en sociofinancement en ce moment.
Oui.
J'ai oublié les noms en tête, mais en plus, la plus-value, c'est que c'est ça. Ça se penche.
C'est que tu as le produit qui vient avec. Oui. Quand on remarque les habitudes philanthropiques des Québécois, il y a 40% des Québécois qui préfèrent obtenir quelque chose en échange de leurs dons.
Ouais.
Alors, on est parti de cette prémisse-là. On a dit ça nous prend un produit d'appel, quelque chose de vraiment intéressant et qui est utile pour les gens. Si c'est utile, les gens vont seulement contribuer un peu plus. Alors, tout ça, c'est formulé pour être capable de répondre à la demande du marché, en fait.
Okay. Et donc, si je comprends bien, parce que les recettes ne voyagent pas dans l'aquarium en face de moi, là, faut vous sachiez que parfois, ça m'arrive de parler à notre metteur en onde. Donc, on a une nouvelle formule ici à l'émission. Okay. Hein? On finit avec nos belles idées comme ouais. la vôtre. Mais là, je ne suis même pas sûr. On a du temps pour aller en musique ensuite. Hein? OK. Donc, la digression est complète. Tu couperas ça au montage. Mais donc, pour revenir à recettes en pot, il est possible de choisir aussi de donner vraiment une couleur particulière à sa campagne.
Ben oui, absolument. On a vraiment plein d'options, même pour personnaliser. Au départ, oui. on offre gratuitement à tous ceux qui font campagne avec nous une boutique de vente en ligne personnalisée.
Ah oui?
Alors, oui, ça,
ils
c'est
peuvent
vraiment...
l'ajouter sur leur site web? Ou...
Absolument, ils peuvent le lier à leur site web. Ils peuvent et c'est leur boutique. Donc, ils peuvent vraiment personnaliser avec du visuel à leur image, avec leur logo et tout ça. Donc, quand les gens arrivent sur leur boutique en ligne, ils ont vraiment l'impression d'être chez le client. Bien. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de faire des campagnes médias sociaux. On sait aujourd'hui, maintenant, il faut partager. Et nous, on fournit même les messages.
Parce que j'imagine qu'Instagram, c'est un bon lieu pour partager ces pots-là.
De plus en plus de clients commencent à s'ouvrir à ça. Mais nous, on prend des groupes de bénévoles souvent. Hein. Ils ont des ressources limitées et on les encadre pour faire des vraies belles mobilisations sociales. Et les résultats sont extraordinaires. Il y a plusieurs de nos clients actuellement en campagne. On en a près de 400 actuellement qui sont en campagne avec nous. Un grand nombre double, triple même leur objectif. Absolument.
J'ose quand même vous poser la question. Est-ce qu'il y a une part importante de l'argent qui revient à la cause?
C'est 50%. Donc, c'est
50%,
énorme.
C'est très bien.
Oui, absolument. Nous, okay. on a misé là-dessus. On voulait absolument. Puis ça inclut tous les services qu'on offre sont intégrés dans le prix du pot. Alors, dites-vous là, que quand vous achetez une recette en pot, c'est une contribution majeure que vous faites, en plus des retombées additionnelles que vous générez dans l'économie sociale.
Donc, un pot à la fois, on peut non seulement aider des personnes qui travaillent peut-être différemment, mais qui veulent aussi travailler, et en plus des causes partout au Québec. Merci, Toby Lamantagne.
Avec plaisir.
On retrouve vos pots sur recetteenpot.com.
Rosie aime les garçons qui ont du fric, sans passion ni pudeur mais sans malice. Rosie ne frissonne que pour le chic, Chanel, Dior, Hermès, c'est romantique.
Thank you.
Question: l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés? Quelle est votre expérience avec le taxi adapté?
Vous pourrez entendre d'ailleurs la table ronde de cette émission où on va un peu plus loin sur cette question du transport adapté et peut-être même des chauffeurs de taxi qui offrent du service adapté. Mais bien sûr, vous avez été plusieurs à nous répondre via les réseaux sociaux. Rappelons d'ailleurs qu'on est à Canal M, la radio de Vues et Voix, et aussi, faut aller écrire là, sur canalm.vuesetvoix.com. Je prendrai quelques interventions. D'abord, Marie-Ève Veilleux qui dit qu'elle a presque manqué son avion à cause de taxis privés, mais réservé 24 heures à l'avance. C'est impossible quand on veut un taxi. Ensuite, il y a aussi de Québec, quelqu'un qui utilise un pseudonyme, Villepa, Villepa. Donc, pour Québec, je dirais que le slogan est « Nivelons par le bas » et pas pour une question d'accessibilité universelle. Pour les taxis privés, ça n'existe pas. Ils font tous du STAC. À moins de réussir à en réserver un 24 à 48 heures à l'avance, à condition de savoir où appeler, c'est souvent des propriétaires taxis, pas des compagnies. Enfin, c'est un tableau assez noir qu'on dresse là comme ça, mais il reste que des grands besoins qui augmentent. Je vous invite à aller entendre aussi la table ronde. Et avant de vous quitter, il y a aussi Lise D'Amico. D'ailleurs, tout ça, tous ces commentaires-là ont été faits dans le groupe Transport mais adapté. Donc, Lisa D'Amico parle du fait qu'il est difficile de réserver un taxi adapté à la dernière minute et elle pointe vers un recours collectif qui a lieu non pas contre les taxis ordinaires, mais bien précisément contre Uber et Théo Taxi. Alors, si vous voulez aller voir, il y a Super Samet s'attaque à Uber et Théo. C'est dans la publication sur le droit. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche ou enfin vous en dire plus sur ce recours collectif, parce qu'en fait, il y a eu une requête en action collective qui a été déposée, notamment par Mme D'Amico. On dit tout simplement que Uber et Théo œuvrent par concurrence déloyale, qu'il y a des conditions dérogatoires à la loi, que des iniquités envers certaines catégories de consommateurs, qu'il n'y a pas de respect au droit de la mobilité, que la loi sur la protection du consommateur n'est pas respectée. Et surtout, on va plus loin en disant que les autres chauffeurs de taxi doivent répondre à plus d'obligations que ceux de Théo, mais surtout de Uber. Alors, je vous invite à lire tout ça et surtout à continuer de répondre à la question du jour. Rappelons qu'aujourd'hui, c'était l'industrie du taxi, pour survivre, devra-t-elle offrir plus de transports adaptés? Quelle est votre expérience? Continuez d'ailleurs de nous alimenter tout au long de la semaine. Et sinon, il y a une future question qui s'en vient, mais je n'en parle pas tout de suite. Je veux que vous parliez de taxi. Je veux remercier à cette émission tous les intervenants et intervenantes qui sont venus parler de ce qui leur sont chers, mais aussi ces gens de la table ronde. Je vous rappelle qu'il est possible d'entendre chacun des segments sur la page. Vous pouvez aller voir là où ça vous intéresse ou aller entendre plutôt là où ça vous intéresse. C'est repérable toujours sur le câble ou même sur canalm.vuesetvoix.com. On remercie surtout ces gens si dévoués, semaine après semaine, qui font de cette émission une bonne émission, j'espère, je sens. Et donc, je parle bien sûr de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnan aux communications et l'incroyable Anne-Laure qui concocte une recherche essentielle pour que vous sachiez quels sont vos droits et surtout, et là vous entendez, c'est Benoît Racette qui vous le dit, comment ensemble on va faire un véritable accès libre.